en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Madame, Monsieur, bonjour. À l'occasion du 90e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, le musée de l'armée, organisé en partenariat avec l'Université permanente de la ville de Paris, un cycle de conférences autour de quatre armistices, intitulé « Entre guerre et paix, les armistices ». La première conférence, prononcée le 22 septembre par Thierry Lenz, avait pour objet un armistice signé en 1813, peu connu, l'armistice de Pleiswitz. La deuxième conférence, de Jean-Jacques Becker, le 24 septembre, portait sur l'armistice de 1918. La troisième conférence, le 25 septembre, du colonel Bieuville, revenait sur l'armistice du 26 janvier 1871. Quant à la quatrième conférence, prononcée le 29 septembre par Vincent Giraudier, elle s'intéressait à l'armistice, ou plus exactement aux armistices, de juin 1940. Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de ces quatre conférences. Vous trouverez dans la médiathèque de Canal Académie chacune de ces interventions. Pour l'heure, écoutons Vincent Giraudier parler de l'armistice le plus proche de nous, mais aussi certainement le plus douloureux dans la mémoire collective française des armistices, car porteur de problèmes historiques toujours brûlants, il s'agit de l'armistice de juin 1940. Précisons que Vincent Giraudier est docteur en histoire, chargé d'études documentaires et responsable de l'historial Charles de Gaulle. Ses travaux de recherche portent sur les problèmes d'internement politique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Écoutons-le.
Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, bienvenue au Musée de l'Armée pour cette conférence consacrée donc, à l'armistice de juin 1940, ou plutôt, devrais-je dire, aux armistices de juin 1940, puisque la fin des combats sur le front français n'est effective qu'après la signature de deux documents distincts, l'un avec l'Allemagne nazie le 22 juin 1940 et l'autre avec l'Italie mussolinienne le 24 juin 1940. Alors si cet armistice fort peu connu avec l'Italie est, je dirais presque un épiphénomène, tant il est lié à celui signé avec l'Allemagne, l'armistice franco-allemand reste aujourd'hui encore l'un des grands débats franco-français de la Seconde Guerre mondiale. En effet, cet armistice est loin d'être seulement ce qu'il est juridiquement, c'est-à-dire une date de cessation conditionnelle des combats, et donc j'oserais dire simplement une des dates de l'histoire militaire de la France. L'armistice de juin 1940, parce qu'il est un acte politique, comme tous les armistices, un armistice est un acte politique, on n'insistera jamais assez sur ce point. Donc l'armistice de juin 40 est une des grandes dates de l'histoire de la France, puisque c'est de cet acte, j'oserais dire fondateur, qu'est né le gouvernement de Vichy et qu'en réaction est née la France libre. Et toute la question de la légitimité de ces entités, le gouvernement de Vichy comme la France libre, repose sur la question de la nécessité de cet armistice, ou plus exactement du choix du moyen juridique de cesser le combat sur le front français, c'est-à-dire en gros de terminer cette bataille perdue. Alors, donc, tout d'abord, le contexte. Pourquoi se pose cette question de la cessation du combat sur le territoire français? Eh bien, tout simplement parce que l'armée allemande a battu, lors de ce qu'on appelle la campagne de France, donc 10 mai-25 juin 1940, les armées alliées. Alors les armées alliées, c'est-à-dire les armées françaises, qui constituaient le très gros des troupes, mais aussi celles de l'Empire britannique, je dis bien Empire britannique, puisque les dominions sont présentes, mais aussi les armées présentes sur le front français, des gouvernements en exil polonais et tchécoslovaques, puisque la question de la poursuite de la guerre par des gouvernements de pays intégralement occupés était déjà posée en mai 1940, comme elle avait d'ailleurs déjà été posée lors de la Première Guerre mondiale. Mais les armées alliées, ce sont aussi les armées belges et néerlandaises, après l'agression de leur pays, officiellement neutre, mais tous deux envahis le 10 mai 1940, et qui vont avoir eux aussi à résoudre la question de l'arrêt des combats une fois la bataille perdue. Je mettrai si vous me permettez, de côté la question du Luxembourg, qui n'avait pas d'armée. Le gouvernement est parti en exil et a laissé, pour ne pas faire couler le sang, les armées allemandes pénétrer sur son territoire. Alors maintenant, autre question qui peut vous paraître surprenante, mais qui doit, je l'espère, vous permettre de bien appréhender cette question de l'armistice. Pourquoi cette bataille ? Pourquoi cette campagne de France ? Eh bien, parce que cette bataille perdue fait suite à une déclaration de guerre. Et chose très importante à prendre en compte, une déclaration de guerre qui avait émané des démocraties. C'était en effet la France et l'Empire britannique qui ont, en septembre 1939, déclaré la guerre à l'Allemagne nazie suite à l'agression de la Pologne. Agression donc qui était aux yeux des démocraties, qui avait déjà, on peut dire, capitulé à Munich et fait beaucoup de concessions. L'agression de trop. Voilà, l'agression de la Pologne, c'était l'agression de trop de la part de l'Allemagne nazie, et les démocraties lui ont déclaré la guerre. Et cette déclaration de guerre, elle pèse déjà beaucoup dans le contexte de mai-juin 40. Pourquoi ? Eh bien parce qu'aujourd'hui, personne d'honnête ne peut décemment considérer, comme d'ailleurs en 1939, que les responsables de la guerre sont ceux qui l'ont déclarée, c'est-à-dire la France et l'Angleterre. En effet, toute la politique d'Hitler depuis son arrivée au pouvoir en 1933, c'est de multiplier les agressions et les coups de force pour remettre en cause le traité de Versailles, mais avec un deuxième objectif sous-jacent, celui de ne jamais endosser la responsabilité du déclenchement de la guerre. Tout comme il avait parfaitement compris les conséquences de l'armistice du 11 novembre 18, le professeur Becker vous en a parlé il y a peu, l'armistice du 11 novembre 18, c'est un acte politique imposé aux politiques par un grand état-major allemand qui refuse ainsi d'assumer ses responsabilités dans la défaite militaire. Hitler avait aussi profondément assimilé les conséquences du traité de Versailles, qui déclarait la responsabilité des empires centraux dans le déclenchement de la guerre et induisait par là même les réparations que l'Allemagne s'est vue infliger. Et ça, c'est une des constantes de la politique nazie. C'est ce décalage entre les discours et les faits qui constamment, quand ça les arrange, se réfèrent au texte signé, à la légalité, tout en agissant sans aucun respect ni de ces textes, ni des principes élémentaires qui régissent habituellement les relations entre les peuples dits civilisés. Il faut déjà se mettre en tête que cet armistice pour Hitler, de toute façon, c'est un chiffon de papier, comme tous les actes qu'il a pu signer par le passé. Donc je parlais des relations entre les peuples dits civilisés, des lois de la guerre. En juin 1940, donc, il existe déjà des lois de la guerre pour gérer les relations entre belligérants. Alors ces lois de la guerre, elles sont nées avec l'apparition des armées permanentes et le développement des armes modernes. En effet, les nations ont au fil des siècles acquis la conviction que le droit devait lui aussi s'imposer dans le domaine des conflits. Alors des principes coutumiers de la guerre, on appelait ça à l'époque donc des principes coutumiers, ont commencé à se développer dès le XVIe siècle, où on voit apparaître les premières capitulations et les premières conventions d'armistice. Mais les véritables constructions de normes internationales datent de la fin du XIXe siècle, avec donc le Suisse Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, mais aussi l'Américain Lieber, rédacteur du Code de la guerre de sécession. Ces précurseurs sont suivis donc par les conventions de Genève de 1906 et les deux conventions de La Haye, celles de 1899 et de 1907, qui voient l'émergence de ce qu'on commence à appeler le droit de la guerre. Alors donc, question, par rapport à ces lois de la guerre existantes, quelles sont les possibilités offertes aux gouvernements légaux pour résoudre une situation analogue à celle subie par les gouvernements belges, néerlandais ou français en mai-juin 40? Alors lorsqu'il est devenu évident que malgré le courage des combattants, je rappelle que la campagne de France a fait 100 000 morts français en 5 semaines de combat, donc lorsqu'il est devenu évident que le sort de la campagne était scellé, le gouvernement français avait le choix entre deux solutions. Première solution, la capitulation des armées sur le territoire national, avec poursuite ou non d'ailleurs de la guerre dans les colonies. C'est cette solution qui va être retenue par les gouvernements néerlandais et belges. En effet, si l'armée des Pays-Bas capitule le 14 mai, la reine et le gouvernement sont déjà à cette date en Angleterre, où ils affirment leur volonté de continuer le combat grâce à l'alliance britannique et aux ressources des Indes néerlandaises. Ce choix de la capitulation, c'est aussi celui de la Belgique, mais plus exactement de son roi, Léopold III, qui fit déposer les armes à son armée le 28 mai 1940, en tant que chef des armées, et seulement en tant que cela, ce qui lui fit faire d'ailleurs le choix de se constituer prisonnier pour partager le sort de ses hommes. Donc le roi capitule à la tête de son armée, mais le gouvernement choisit lui l'exil, ce qui d'ailleurs, après la guerre, posera ce qu'on appelle donc la question royale, qui n'est pas du tout dans le cadre de cette conférence de traité. D'ailleurs, cette capitulation de l'armée belge fut à l'époque très durement critiquée par le président du Conseil français, Paul Reynaud, qui parla de « roi félon ». Le gouvernement belge en exil critiqua lui aussi, avec des termes plus nuancés, la décision de son roi. Alors, voyons maintenant plus en détail le contexte de la bataille de France. En résumé, donc, la bataille de France commence le 10 mai 1940 avec l'offensive générale allemande, qui concerne donc à la fois les Pays-Bas, la Hollande, le Luxembourg et le nord de la France. Le 14 mai, donc, le front est rompu à Sedan, ce qui provoque l'encerclement des meilleures troupes alliées et aussi la stupeur de l'opinion. Pour rassurer les Français, Paul Reynaud commence d'abord par rappeler ce que j'oserais appeler les vieilles gloires. Le 18 mai, donc, le maréchal Pétain devient vice-président du Conseil. Le 19, le général Weygand remplace Gamelin comme généralissime des armées. En parallèle, un homme à poigne, Georges Mandel, est nommé à l'intérieur. Après donc, la sanglante bataille de Dunkerque, qui voit donc, le rembarquement de l'armée britannique et d'un fort contingent français, Paul Reynaud étoffe le 5 juin son gouvernement avec ce qu'on pourrait appeler, si j'ose dire, des techniciens. C'est ainsi que le financier Boutillier vient aux finances, que le journaliste Prouvot est nommé à l'information, et plus connu des, entre guillemets, si j'ose dire, techniciens, le général de Gaulle, qui avait commandé l'une des rares unités blindées françaises, est nommé sous-secrétaire d'État à la Défense nationale. Mais de toute façon, quand donc ce nouveau gouvernement est créé, le sort de la bataille dépend maintenant de la ligne Weygand, c'est-à-dire cette ultime ligne de défense sur la Somme. Le 6 juin, cette ligne, ce front est rompu. Et il y a donc la situation paradoxale que c'est cette nouvelle équipe gouvernementale, entre guillemets, de choc, qui va être face à la question de la poursuite ou non de la guerre. Donc le 10 juin, le gouvernement français donc, quitte Paris déclaré ville ouverte, et dans lequel d'ailleurs les Allemands entreront le 14 juin. C'est le 12 juin que le généralissime Weygand pose au gouvernement alors replié à Cangers dans l'Indre-et-Loire la question de l'armistice. Première fois donc qu'on évoque la question de l'armistice. Le 13 juin, le maréchal Pétain, jusque-là silencieux, annonce qu'il est lui aussi favorable à cette option. Le 15 juin, le gouvernement est alors à Bordeaux, face à la pression de l'offensive allemande qui s'accentue, et avec la nouvelle attaque italienne sur le front des Alpes depuis le 10 juin, Paul Reynaud apparaît de plus en plus isolé. Il démissionne le 16 juin au soir, entre 20h et 22h, sans avoir d'ailleurs demandé à son gouvernement son avis précis sur la demande d'armistice. On ne saura jamais si la décision d'armistice était majoritaire ou minoritaire au sein du gouvernement en exercice le 16 juin 1940. Il est immédiatement remplacé par le maréchal Pétain qui sort de sa poche une liste. Son gouvernement est déjà prêt. Dès son arrivée au pouvoir le 17 juin 1940, le maréchal Pétain annonce dans un très célèbre discours à la radio « C'est le cœur serré qu'il faut cesser le combat ». Expression qui va s'avérer désastreuse. En effet, je vous rappelle donc que le 17 juin, la guerre continue sur le front français, et même sur les deux fronts français, puisque sur le nouveau front des Alpes, l'armée française inflige alors de lourdes pertes à l'armée italienne. D'ailleurs, devant la maladresse de la formule « il faut cesser le combat », qui démobilise totalement les combattants qui ont entendu cette phrase, ce qui reste de la presse, ainsi que la radio française et l'état-major, tentent alors de corriger la phrase du maréchal en faisant croire qu'il aurait dit la phrase suivante, « Il faut tenter de cesser le combat ». Car ce que le maréchal Pétain a oublié, ou fait semblant d'oublier, c'est qu'un armistice n'est pas un acte unilatéral, mais une convention entre deux parties. On ne peut pas déclarer seul qu'on arrête de se battre dans le cadre d'un armistice. Juridiquement, l'armistice est défini par les conventions de La Haye du 18 octobre 1907. C'est une convention qui, je cite l'article 36 de la Convention, suspend les opérations de guerre par accord mutuel des parties belligérantes. L'article 38 précise que les combats ne cessent qu'après sa proclamation. Donc, dans le cas qui nous intéresse, les Allemands font savoir, suite au discours de Pétain, leur intention d'accepter la proposition française de demander l'armistice et d'engager des pourparlers. Une délégation française se rend alors sur les lieux mêmes de la signature de l'armistice du 11 novembre 18, la clairière de Rotonde, pour rencontrer la délégation allemande. Hitler lui-même est présent. Désireux de laver l'humiliation de 1918, il a donc exigé de signer l'armistice à Rotonde, en forêt de Compiègne, dans le wagon historique où le maréchal Foch et les plénipotentiaires allemands se sont retrouvés pour l'armistice du 11 novembre 1918. L'idée lui en serait venue un mois plus tôt, lors de l'offensive victorieuse de ses chars sur Abbeville. Selon le récit d'un journaliste américain présent sur place, Hitler arrive en Mercedes dans la fameuse clairière. Il prend le temps de décrypter l'inscription en gros caractères. Ici, le 11 novembre 1918, succomba le criminel orgueil de l'Empire allemand, vaincu par les peuples libres qu'il avait essayé d'asservir. Puis il entre dans le wagon historique et s'assoit à la place où s'était tenu le maréchal Foch. Il est entouré d'Hermann Göring, de son ministre des Affaires étrangères, von Ribbentrop, de William Keitel et du général Alfred Jodl, qui signera à Reims, 5 ans plus tard, la capitulation de l'Allemagne. Quelques minutes plus tard, arrive la délégation française, conduite par le général Hunzinger. Après bien des alternoiements, Keitel impose à la délégation française de conclure. L'armistice est signé le 22 juin à 18h50. Il est important de rappeler que le gouvernement au nom duquel est signé l'armistice n'est pas celui de l'État français, avec un maréchal chef d'État doté de tous les pouvoirs et des chambres en sommeil. Le gouvernement au nom duquel est signé l'armistice est bien celui de la République. C'est une République avec un président, Albert Lebrun, qui a nommé président du Conseil Pétain, qui a lui-même formé un gouvernement avec des parlementaires de presque tous les partis. C'est un gouvernement reconnu par tous les États, Vatican, États-Unis et URSS compris, puisque tous entretiennent alors des relations diplomatiques. Donc ce premier armistice, l'armistice franco-allemand, est donc signé le 22 juin. Mais il est précisé qu'il ne rentrera en vigueur qu'après la signature d'un deuxième armistice entre la France et l'Italie. Ce deuxième armistice est signé le 24 et les hostilités ne vont donc cesser finalement que le 25 juin 1940, soit 8 jours après le discours du maréchal Pétain du 17 juin. Alors que peut-on dire de plus sur les règles générales définissant la convention d'armistice ? 2 autres articles de la convention de La Haye sont à mon avis très importants. L'article 39, qui prévoit que les rapports entre les populations et les occupants peuvent faire l'objet d'accords entre les parties contractantes, et l'article 41, qui, je cite, prévoit que les particuliers qui violent les clauses de l'armistice peuvent être punis. En clair, chose qu'il convient de rappeler, en signant un armistice avec l'Allemagne, le gouvernement français donne aux Allemands les droits de la puissance occupante. Il assimile aussi de fait ceux qui poursuivent le combat à des francs-tireurs, exclus des droits et protections auxquels peuvent prétendre les combattants. Tout ceci est induit par le fait d'avoir signé une convention d'armistice. C'est pourtant ce choix qui a été validé par le gouvernement à la demande d'un commandant en chef qui refuse de faire capituler ses armées. Une fois ce cadre général posé, intéressons-nous maintenant à la convention d'armistice elle-même. La convention d'armistice entre la France et l'Allemagne comporte 24 articles. Article 1er. Le gouvernement français ordonne la cessation des hostilités contre le Reich allemand sur le territoire français comme sur ses possessions coloniales, protectorats et territoires sous mandat et sur les airs. Il ordonne que les troupes françaises déjà encerclées par les troupes allemandes déposent immédiatement les armes. Ce qui est problématique pour les unités derrière la ligne Maginot. Certaines auront eu le temps d'aller se faire interner en Suisse, mais beaucoup vont être faites ainsi prisonnières. Suivent 23 autres articles, dont beaucoup donc sont des articles qu'on pourrait qualifier de techniques ou de militaires. Livraison de matériel, livraison d'armes, livraison de plans de champs de mines. Parmi les articles les plus importants, l'article 2. L'article 2 précise que, je cite, « pour assurer les intérêts du Reich allemand, le territoire français, situé au nord et à l'ouest de la ligne tracée sur la carte ci-annexée, sera occupé par les troupes allemandes. Les territoires qui qui ne sont pas encore aux mains des troupes allemandes, seront immédiatement occupées après la conclusion de la présente convention. Alors cet article 2, c'est un bon exemple de ce que je vous disais tout à l'heure, cette politique allemande qui se sert des textes pour se donner les apparences de la légalité sans les appliquer. En effet, cet article que je viens de vous lire ne prévoit pas l'annexion de fait de l'Alsace et de la Moselle. Il n'en parle pas. Il ne prévoit pas non plus le rattachement du Nord et du Pas-de-Calais au commandement militaire de Bruxelles. Il ne parle pas de zones interdites, il ne parle pas de zones réservées. Dans la convention d'armistice, il n'y a qu'une zone dite occupée et une zone non occupée, et rien de défini sur la porosité ou non de cette ligne. Bien entendu, l'armistice ne dit rien non plus du futur dépeçage de la France après la guerre. Il s'agit donc d'un armistice relativement conciliant, puisque la priorité pour Hitler, c'est de laisser l'Angleterre seule pour mieux la détruire à son tour. Et il est très important, à ce moment-là, que ni la flotte, ni l'Empire français, ni la flotte française ne continuent la guerre. Article 3. Il précise que dans les régions françaises occupées, le Reich allemand exerce tous les droits de la puissance occupante. C'était de toute façon déjà dans les conventions de l'AE. Donc le gouvernement français s'engage à faciliter par tous les moyens les réglementations et l'exercice de ces droits, ainsi que l'exécution avec le concours de l'administration française. Le gouvernement français invitera immédiatement toutes les autorités et tous les services administratifs français du territoire occupé à se conformer aux réglementations des autorités militaires allemandes et à collaborer avec ces dernières d'une manière correcte. C'est donc là la stricte application des principes juridiques de l'armistice, tels que définis par les accords de l'AE. Mais ces droits donc, de la puissance occupante vont permettre aux autorités allemandes de promulguer leurs propres lois qui ne seront pas applicables dans la zone non occupée. Donc, toute cette ambiguïté, c'est-à-dire que même quand la zone dite libre va être envahie après le 11 novembre 1942, les lois allemandes ne seront pas officiellement applicables et appliquées dans ces régions. Exemple, le port de l'étoile jaune. Le port de l'étoile jaune, c'est une mesure prise au printemps 1942, émanant des autorités allemandes, et qui ne s'appliquera pas dans la zone sud après le 11 novembre 1942. Mieux, si j'ose dire, les Allemands vont même donner le nom de troupes d'opération aux armées qui occupent le sud de la France, pour bien montrer qu'en fait, elles ne sont pas en occupation, mais elles sont en opération militaire. Totalement théorique, mais ça permet de maintenir la légitimité de façade du gouvernement Laval. C'est à cette occasion donc, de l'invasion de la zone sud, au 11 novembre 1942, que l'Italie, qui occupe depuis juin 1940 quelques kilomètres carrés sur les Alpes, ainsi que la ville de Menton, va occuper de septembre 1943 de novembre 42 à septembre 43, pardon, la Corse et la rive gauche du Rhône. Donc ces troupes allemandes sont donc définies comme troupes d'opération, donc purement théorique, puisque pour avoir travaillé donc sur la répression raciale dans le département de l'Ardèche, j'ai découvert par exemple des arrestations de juifs par des douaniers allemands. Voilà. Alors pourquoi des douaniers allemands en Ardèche? Parce que donc, ce que je vous disais, de novembre 42 à septembre 43, le Rhône et fleuve frontière pour l'Allemagne. Et donc, des douaniers allemands s'installent pour surveiller les ponts du Rhône, comme ils s'installent pour surveiller la frontière des Pyrénées ou qu'ils avaient avant surveillé la ligne de démarcation. Donc, autre article important de la convention d'armistice, l'article 10, qui prévoit donc que le gouvernement français s'engage à n'entreprendre à l'avenir aucune action hostile contre le Reich allemand, avec aucune partie des forces armées qui lui restent, ni d'aucune autre manière. La France doit aussi veiller à ce qu'aucun membre de ses forces armées ne quitte le territoire français. Et évidemment, le gouvernement français doit interdire aux ressortissants français de combattre contre l'Allemagne, aux services d'État avec lesquels l'Allemagne se trouve encore en guerre. Voilà. Et il précise que les ressortissants français qui ne se conformeraient pas à cette prescription seront traités par les troupes allemandes comme des francs-tireurs. Alors la question des forces françaises libres a été réglée après les combats de Bir Hakeim, puisque après les combats de Bir Hakeim, les troupes allemandes ont considéré les FFL comme des soldats réguliers. Par contre, en vertu de cet article, les Allemands vont jusqu'au dernier jour de l'occupation fusiller ou déporter les résistants tombés entre leurs mains. C'est encore vrai jusqu'au combat de août-septembre 1944. Autre article très important, les articles 17 et 18. Ils traitent des clauses économiques et ils annoncent la politique allemande de recourir au pillage systématique de la France occupée. Alors il est très court, article 18. Les frais d'entretien des troupes d'occupation allemandes sur le territoire français seront à la charge du gouvernement français. Voilà. En fait, c'est une indemnité très importante, en moyenne de 400 millions de francs par jour. Et à ces frais d'occupation légaux, entre guillemets, s'ajoute la surévaluation forcée du marque, ainsi que la création de toute une série d'officines d'achat de produits, des fameux bureaux auto. Voilà. Donc ces pillages financiers vont permettre de financer l'effort de guerre tout en préservant le niveau de vie des Allemands. La France va contribuer pour une grande partie au coût économique de la guerre pour l'Allemagne jusqu'en 1944. Alors pour les Français, dès septembre 40, c'est le rationnement officiel dans la plupart des villes de la zone occupée. Donc on assiste à la création de cartes d'alimentation pour toute une série de catégories d'ayants droit, les enfants, les J1, les J2, les J3, adultes, vieillards, travailleurs de force, etc. Et cette situation va entraîner un vaste marché noir, dont les Allemands sont d'ailleurs les premiers à en profiter, et ce qui va leur permettre d'y gagner le surnom de Doriforts. Hors article très connu, enfin aujourd'hui assez connu, plutôt l'article 19. L'article 19 précise que le gouvernement français est tenu de livrer sur demande tous les ressortissants allemands désignés par le gouvernement du Reich et qui se trouvent en France, de même que dans les possessions françaises, les colonies, les territoires sous protectorat et sous mandat. Voilà. Donc c'est en vertu de cet article 19 que de nombreux hommes politiques allemands, des militants anti-nazis et des juifs, sont livrés par Vichy à l'Allemagne. Article 20. Il précise que les membres des forces armées françaises qui sont prisonniers de guerre de l'armée allemande resteront prisonniers de guerre jusqu'à la conclusion de la paix. Voilà. Donc cet article 20, il signifie que Vichy va devoir compter avec près de 1 800 000 otages potentiels. Enfin, l'article 22 prévoit la création d'une commission d'armistice qui, agissant sous le contrôle du haut commandement allemand, réglera et contrôlera l'exécution de la convention d'armistice. Elle est aussi appelée à assurer la concordance nécessaire de cette convention avec la convention d'armistice italo-française. Voilà. Et la France donc enverra une délégation chargée de représenter les intérêts et de recevoir les ordres d'exécution de la commission allemande d'armistice. Voilà. Donc c'est le général Doyen qui aura la lourde charge de présider cette commission française, cette délégation française. La commission d'armistice s'installera à Wiesbaden. Il y en aura une aussi à Turin pour la convention d'armistice franco-italienne. Mais bon, il est évident que la marge de manœuvre de la délégation française est voisine de zéro. Ils sont là que pour recevoir les diktats allemands. Enfin, donc dernière ligne de la convention d'armistice. La présente convention d'armistice a été signée le 22 juin 1940 à 18h50, heure d'été allemande, dans la forêt de Compiègne. Alors ça peut paraître anecdotique, mais en fait cette phrase exprime bien la triste réalité, puisque les Français vont vraiment vivre à l'heure allemande, à tous les sens du terme, puisque l'Allemagne impose son heure, pendant plus de 4 ans. Alors avant de revenir plus en détail donc, sur les conséquences de cet armistice, intéressons-nous quelques minutes à celui moins connu, signé avec l'Italie. Donc, comme je vous le disais, cet armistice signé avec l'Italie est beaucoup moins connu. Pour tout vous dire, je ne l'avais même jamais lu dans son intégralité avant de préparer cette conférence. Alors, il se compose de 25 articles qu'il serait assez fastidieux de lire dans leur intégralité, puisque la plupart sont eux aussi sur des clauses purement militaire, livraison de champs de mines, de matériel, etc. Alors, un article intéressant, c'est l'article 2. Il précise que les troupes italiennes se maintiendront, au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention d'armistice et pour toute la durée de celui-ci, sur les lignes qu'elles ont atteintes sur tous les théâtres d'opération. Alors c'est une formule pompeuse, mais qui ne cache pas que l'armée des Alpes a infligé un camouflet à une armée italienne bien plus nombreuse. Et deuxième camouflet, si j'ose dire, c'est que l'Allemagne n'a pas voulu accorder une zone d'occupation à son allié. Donc jusqu'en novembre 1942, l'occupation italienne en France sera donc limitée aux conquêtes militaires de juin 1940, c'est-à-dire à une très étroite bande frontière sur les Alpes, ainsi qu'à la ville de Menton. Alors en compensation, encore pas toute la ville de Menton, en compensation donc de l'abandon de ses exigences, Mussolini a obtenu la création d'une zone démilitarisée à ses frontières avec la France et aux frontières avec les colonies françaises voisines des colonies italiennes. C'est ainsi que, par exemple, on va démilitariser la ligne Marette dans le sud de la Tunisie. On demande aussi... En fait, une grande partie des clauses de l'armistice entre la France et l'Italie ne vont pas être appliquées à cause de la poursuite de la guerre par la France libre. C'est-à-dire que, par exemple, la question de la poursuite de la guerre par les Britanniques et l'existence d'une France libre empêche, si j'ose dire, le désarmement de Djibouti, enfin de la côte française des Somalis. Voilà. Et il en est de même pour autour de... Enfin, puisque cette zone est en guerre pour la Djibouti. Voilà. Idem pour la zone avec au Maroc, etc. En fait, comme l'Afrique du Nord n'est pas désarmée, il va de soi que ça ne s'applique pas par rapport au Maroc espagnol. Voilà. Les Italiens obtiennent aussi l'utilisation du chemin de fer reliant Djibouti à Addis Abeba, la capitale donc de l'Éthiopie qu'ils ont conquis en 1938. Enfin, l'article 21 précise que les civils italiens internés en France en tant que ressortissants ennemis sont libérés. Ils ont été ainsi quelques dizaines de milliers à être internés, en particulier dans le Gard et l'Hérault, durant la deuxième quinzaine du mois de juin 1940. Voilà. Et l'Italie va d'ailleurs accorder une large publicité au sort de ces malheureux compatriotes internés en juin 1940. En particulier, les milliers d'internés, les milliers d'Italiens de du Gard qui ont été internés quelques semaines au camp des Garrigues à côté de Nîmes. Voilà. Donc, en résumé, cet armistice avec l'Italie, c'est un événement important sur le moment. C'est un événement important sur le moment puisque ce qu'on pourrait qualifier de cadeau d'Hitler à Mussolini prolonge la guerre de 3 jours, ce qui signifie quand même que des milliers d'hommes vont être tués, blessés ou faits prisonniers entre le 22 et le 25 juin 1940. Voilà. Par contre, une fois les deux textes entrés en vigueur, il va de soi que le document le plus important, celui que l'histoire a d'ailleurs retenu, c'est celui du 22 juin avec l'Allemagne. Voilà. Donc bien que cette conférence ne porte pas en particulier sur le régime de Vichy, intéressons-nous évidemment aux conséquences de cet armistice. Alors il est évident que l'on ne peut faire abstraction de la volonté du gouvernement du maréchal Pétain de mener une politique revendiquée de collaboration. Parce qu'il va au-delà de la convention d'armistice. Comme je viens de vous le dire, la convention d'armistice précisait que le gouvernement français s'engage à faciliter par tous les moyens les réglementations et l'exercice des droits de la puissance occupante, ainsi que l'exécution avec le concours de l'administration française. Voilà. Ce terme de collaboration apparaît donc dans la convention d'armistice. Mais il faut faire attention au sens que les Allemands y accordent alors au 22 juin 1940. Pour eux, ils souhaitent alors seulement que l'administration française gère à leur service les affaires courantes selon les principes définis dans les accords de La Haye. En gros, le fonctionnement des services publics. Or, comme l'ont montré toutes les recherches effectuées depuis l'ouverture des archives il y a maintenant plus de 30 ans, le gouvernement français se lance, à l'automne 40, de sa propre initiative, et j'insiste sur ce point, sans aucune pression allemande, dans une politique de collaboration d'État à État, dont le symbole est la rencontre et la poignée de main de Montoir du 24 octobre 40. Cette initiative française de vouloir, entre guillemets, collaborer d'État à État est d'abord négligée par Hitler. Mais il va finalement la tolérer quand la conjoncture diplomatique et militaire, la poursuite de la guerre, la non-entrée dans la guerre de l'Espagne, va lui faire paraître conforme à ses intérêts. Ceci étant dit, et bien que la collaboration n'est pas le thème de cette conférence, il est néanmoins nécessaire de rappeler que la France a été ainsi un cas particulier dans l'Europe occupée. La France a été le seul pays battu et occupé par l'Allemagne qui s'est doté d'un gouvernement qui ne s'est pas contenté de gérer les affaires courantes. Or, quel est l'acte fondateur du régime de Vichy, sinon cet armistice? Et d'où vient l'essentiel de la popularité du maréchal, en dehors de son rôle en 14-18, si ce n'est qu'une immense partie de la population lui sait gré d'avoir arrêté une bataille désastreuse et d'avoir, pour les gens de la zone dite libre, obtenu le retrait des forces allemandes derrière la ligne de démarcation. Retrait d'ailleurs relatif, puisque l'Allemagne n'évacue le nord de la vallée du Rhône et de l'Auvergne qu'en échange du sud de la côte atlantique. Les Allemands n'étaient pas arrivés jusqu'à Bordeaux. Cette question de la légitimité d'un régime né de l'armistice pose par contrario celle de la France libre, qui naît, elle, du refus de cet armistice. Le lendemain du message de Pétain annonçant la demande d'armistice, nous avons vu qu'il faudra encore une semaine, une autre voix s'élève. Face à cet armistice non encore signé, face à cette intention d'armistice, se prononce un refus. Le 18 juin, c'est un acte fondateur. C'est l'acte de foi d'un indéfectible patriote qui, parce qu'il est pétri d'histoire, sait se projeter dans la longue durée, bien au-delà du désastre de juin 40. Pour De Gaulle, la défaite n'est pas définitive. Dans son appel du 18 juin, il clame à trois reprises que la France n'est pas seule. Il rappelle que la guerre est mondiale, que l'Empire britannique poursuit le combat et que, je le cite, l'immense industrie des États-Unis peut être, je le cite encore, utilisée sans limite. Mais cet appel, le 18 juin, est d'abord d'essence militaire. Officiellement tout au moins, il n'est pas encore une alternative au gouvernement de Bordeaux. C'est la signature définitive de l'armistice qui change la donne. Pour De Gaulle, cet armistice est nul et non avenu. En 1941, dans un discours au Caire, le général De Gaulle déclare « Le 17 juin 1940, disparaissait à Bordeaux le dernier gouvernement régulier de la France. Le lendemain, naissait la France libre. » Cette formule résume admirablement le point de vue gaullien. Au fur et à mesure que le général s'impose à la tête des résistances et vis-à-vis de ses alliés, la référence à ce qu'il appelle tout d'abord le crime de l'armistice disparaît. Dorénavant, l'avenir se construit. Le 8 août 1943, il déclare « Clémenceau disait « Le pays doit connaître qu'il est défendu. Nous disons « Le pays » un jour, devra connaître qu'il est vengé. Les autorités d'Alger mettent donc en place les conditions d'une épuration judiciaire au terme de laquelle l'armistice de juin 1940 est illégal. L'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental déclare en effet dans son article 1er « La forme du gouvernement de la France est et demeure la République. » En droit, celle-ci n'a pas cessé d'exister. Et l'article 2 de préciser sont, en conséquence, nuls et ne nul effet tous les actes constitutionnels, décrets, etc., etc., promulgués sur le territoire continental, postérieurement au 16 juin 1940, départ donc de Paul Reynaud, et jusqu'à l'établissement du gouvernement provisoire de la République française. Le gouvernement de Vichy, à l'été 1940, quand se rétablit la légalité républicaine, devient ainsi, en droit, nul et non avenu. Ce sera la version officielle jusqu'au discours prononcé par Jacques Chirac lors des commémorations de la rafle du Vel'd'Hiv le 16 juillet 1995. Il est, dans la vie d'une nation, des moments qui blessent la mémoire et l'idée que l'on se fait de son pays. Il est difficile de les évoquer. Aussi, parce que ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été secondée par des Français par l'État français. Je vous remercie de votre attention.